Ça y est, avancé. Voilà, alors malheureusement, il manquera des textes parce que j'ai profité de la liturgie pour donner plein de textes bibliques en lien avec cette prédication. Et nous relisons maintenant en Exode 17, rien de nouveau sous le soleil. Toute l'assemblée des Israélites partirent du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau. Ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? J'ai plus de voix. Si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Je vous épargne encore un autre texte, mais je vous en parle brièvement, le veau d'or. Voilà, Moïse va monter et à nouveau, c'est la catastrophe. Et nous lisons maintenant en Nombre 13, 27, 14 à 4. J'aurais presque pu vous lire toute la Bible aussi. C'est souvent la même chose, mais bon. Nombre 13, 27, 14 à 4. Ils firent ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et vraiment, c'est un pays ruisselant de lait et de miel, où voici les fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu les descendants des Anakites. Amalek habite la région du Nagev, les Hittites, les Jébusites et les Amorites habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui s'opposait à Moïse. « Allons-y, dit-il, montons et emparons-nous du pays, nous arriverons certainement à le soumettre. » Nous, les hommes qui étaient montés avec lui, dirent « Nous ne pouvons pas attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils se mirent à décrier devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, disaient-ils, est un pays qui dévore ses habitants et tous les gens que nous y avons vus étaient des hommes de grande taille. Et nous y avons vu ces géants, les fils de Anak, de la race des géants. Nous voyons comme des sauterelles et c'est bien ainsi qu'eux-mêmes nous voyaient. Toute la communauté fit chorus et poussa des cris, et le peuple passa la nuit à pleurer. Tous les fils d'Israël protestèrent contre Moïse et Aaron. La communauté tout entière lui dit « Ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si du moins nous étions morts dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous mène-t-il dans ce pays où nous tomberons sous l'épée? Nos femmes et nos enfants seront capturés. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Toute la communauté parlait de les lapider. Il est où ce beau cantique qu'on a chanté en début de culte, où il disait que rien n'empêche la main droite de l'Éternel. Le peuple de Dieu souffrait de sa servitude en Égypte. En Exode 1, 12 à 14, il est dit « On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les travaux qu'ils exigeraient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes entrepôts de Pithom et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les Israélites. Les Égyptiens contraignirent les Israélites au travail, il leur rendit la vie amère. Par de durs travaux, préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent. ces versets bibliques nous montrent les conditions de travail du peuple de Dieu en Égypte. Et elles sont pénibles. Elles sont exigeantes. Le peuple de Dieu étant dans cette situation très pénible, Dieu est venu à leur aide à travers 11 miracles. Alors je dis 11 miracles, vous avez les 10 plaies d'Égypte, qui même si elles sont horribles, restent des miracles. Et vous avez le 11e miracle, c'est quand ils passent cette mer. Et c'est incroyable, je veux dire, c'est le miracle qu'ils ont vu. Aucun Hébreu ne pouvait nier l'existence de Dieu. Aucun. Aucun. C'était pas possible. Ils ont vu Dieu agir. Je veux dire, quand il y a une mer qui s'ouvre comme ça, voilà. On est sur fait accompli, on sait que Dieu existe. Il n'y a plus d'autre chose. Pourtant, malgré ces miracles et ceux qui vont encore suivre, parce que ce n'est pas les seuls, on a vu tout le long du désert, en fait, ils vont avoir que des miracles. Le peuple de Dieu continuera de murmurer contre lui devant les difficultés qu'il rencontrera. À chaque difficulté, il se mettra à murmurer. Le texte dit, bien le peuple, et non une partie du peuple, qui murmurait. Ça, je pense que c'est important, on verra après. Ce n'est pas quelques gens qui murmuraient, c'est tout le peuple. Mais avant de venir à ça, répondons à cette question, pourquoi le peuple murmure? Pourquoi il murmure contre Dieu? Il me semble que si le peuple de Dieu murmure contre lui, c'est parce qu'il n'est pas dans le confort que le peuple hébreu devait sûrement attendre de lui. Le peuple hébreu possède le Dieu le plus puissant, le plus redoutable de tout l'univers. Et pourtant, sa condition de vie, j'ose le dire, dans le désert n'est pas terrible. Il ne vit pas dans un lieu paradisiaque, mais il vit dans le désert. Il ne vit pas dans des maisons, mais il vit en des tentes. Ce n'est pas des tentes décathlon, hein, c'était moins de confort. Hein. L'être humain a cette fâcheuse habitude à souvent se comparer avec les autres. Je l'avoue, je le fais aussi. Et forcément, les Hébreux l'ont fait aussi. Dieu a vaincu les Égyptiens, et pourtant, c'est qui est dans le désert? C'est qui est sous les tentes? C'est les Égyptiens? Non. Les Égyptiens, ils sont restés dans ce pays qui devait sûrement être beau. Ils sont restés dans leur maison. C'est qui doit être dans le désert et sous la tente? C'est les Hébreux. C'est pas très logique, hein, de façon humaine. Toi, c'est peut-être pas possible. Je veux dire, j'ai le Dieu le plus puissant, j'écrase, je vis sur le peuple, je les asservis. Non. J'ai le Dieu le plus puissant, il m'envoie dans le désert. Forcément, ça râle. Surtout que, sans parler du surconfort, le peuple de Dieu a toujours peur de manquer du minimum, c'est-à-dire de l'eau et de la nourriture. Alors, il râle auprès de Dieu. En lisant ces textes, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jésus, lui qui était Dieu, lui qui était au-dessus de tout. Il a perdu tout son confort céleste pour venir naître dans une étable. Il pouvait être le roi, mais non, il choisit que son père terrestre soit charpentier. Quand je dis père terrestre, nous savons que Marie et Joseph n'étaient pas les vrais pères de Jésus, parce que Jésus est Dieu. Mais voilà, les conditions de Jésus sur terre, par rapport à ce qu'il aurait pu avoir, osons le dire, étaient médiocres. Il aurait pu avoir bien plus. Dans le cas du peuple de Dieu et de Jésus, ils auraient pu avoir bien plus et être dans un surconfort, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ésaïe 55:8, car mes pensées, les pensées de Dieu, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce que Dieu veut, ce n'est pas un confort humain. Mais ce qu'il veut, c'est que nous lui fassions confiance. Non pas pour obtenir de lui ce que nous voulons ou souhaitons, mais pour qu'il nous donne ce que lui pense être bon pour nous. Je le répète, le peuple de Dieu savait que Dieu existait. Il le savait pertinemment. Mais en lisant ces textes, nous voyons que les Hébreux n'ont pas une pleine confiance en Dieu. Dès que l'épreuve arrive, ils ne doutent pas de la puissance de Dieu, mais ils doutent que Dieu prendra soin de lui. Peut-être, après tout, il est dans le désert, et si le Seigneur ne donne pas le surconfort, peut-être qu'il va me laisser mourir dans le désert. Quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il manque de confiance. On pourrait se dire, mais comment cela est-il possible? Comment c'est possible que ce peuple qui voit tant de miracles ait si peu confiance en Dieu? Mais si nous regardons la Bible dans son ensemble, le peuple hébreu dans le désert n'est pas le seul à ne pas faire confiance à Dieu. À l'époque de Jésus, souvenons-nous, les pharisiens, et ça m'épate à chaque fois, parce que les pharisiens croient en Dieu, ils voient la puissance de Dieu se manifester par les miracles de Jésus. Est-ce qu'ils croient en Jésus? Est-ce qu'ils font confiance à Jésus? Est-ce qu'ils donnent leur cœur à Jésus? Non, ils refusent pertinemment. Alors que tout montre que Jésus est le Fils de Dieu, ils refusent de croire. Quand les apôtres viennent, ils disent, mais attendez, ce sont des personnes sans éducation, sans intelligence, je résume, mais et pourtant, écoutez tout ce qu'ils disent. Ils savent pertinemment que Dieu existe, ils voient tous ces miracles, mais ils refusent de lui faire confiance. Dans les deux cas, les hommes ne cherchent pas une relation avec Dieu, mais ils cherchent leur propre intérêt. Il me semble que si le peuple de Dieu murmurait contre lui dans le désert, c'est parce que le peuple voulait une vie paisible avec de la nourriture et un lieu fixe pour dormir, et que les pharisiens, eux, cherchaient plutôt à garder l'emprise qu'ils avaient sur le peuple. S'ils laissaient tout à Jésus, ils perdaient cette emprise. Ils perdaient ce que eux, ils voulaient. Malheureusement, quand je lis ce texte, j'ai l'impression que le peuple de Dieu cherchait en Dieu uniquement un service. Être libérés de la servitude qu'ils avaient en Égypte. Et ils ne cherchaient pas forcément une relation avec Dieu. Le peuple avait un problème, il voulait une solution. Bah tiens, Dieu vient me donner la solution. Et alors j'avais cet exemple, c'est un peu quand vous avez un problème de plomberie. Vous appelez le plombier, vous lui demandez de réparer le truc et... tu dégages. Voilà, t'as réglé mon problème, c'est fini. Finalement, quelquefois, les gens cherchent ça avec Dieu. Tu résous mon problème et va-t'en, j'ai pas besoin de toi, je veux pas de relation. Je veux juste que tu résous mes problèmes. Mais voilà, avec Dieu, cela ne fonctionne pas comme cela. Ce que Dieu veut, ce n'est pas être notre couteau multifonction, notre matière, on dit. Mais il cherche une relation d'amour avec chacun d'entre nous. Malgré ce manque de confiance, Dieu continue, et ça c'est important de le voir, à tendre la main aux hommes pour qu'ils viennent à lui et reçoivent son amour. Ça c'est formidable. L'Ancien Testament est vraiment une marque d'amour. Souvent les gens disent, oui, l'Ancien Testament, c'est violent, il n'y a pas l'amour de Dieu, je suis désolé. L'amour de Dieu, elle est là dans ces textes. Dieu continue à être auprès d'eux, même s'ils murmurent, même s'ils râlent. Face à la réaction des Hébreux, nous pouvons avoir deux réactions. La première réaction, c'est la plus simple, c'est de juger. Et de se dire que les Hébreux ont eu la chance de voir la gloire de Dieu et que finalement, ils n'ont pas été capables de lui faire confiance. En revanche, si moi j'étais à leur place, je le ferais. Voilà. On ne va jamais se dire ça, parce qu'on est des bons chrétiens, on ne dira jamais cette réaction. Mais c'est une réaction qui est le vieil homme qui est en chacun d'entre nous, la vieille femme qui est en chacun d'entre nous, peut nous pousser à dire « Je suis meilleur qu'eux ». Et la deuxième réaction, c'est de se dire que nous sommes nous aussi humains comme eux, avec les mêmes désirs qu'eux, avec les mêmes faiblesses qu'eux. En effet, Qui a envie de perdre son confort personnel que nous avons et de dépendre entièrement de Dieu pour la nourriture? Moi, je suis content d'avoir mon frigo qui est rempli de nourriture. Je suis content d'avoir mon robinet avec l'eau qui coule dès que je l'ouvre. Puis dès qu'il y a une panne d'eau, là, c'est moins drôle. C'est tellement facile hein, de juger qu'on n'est pas dans la même situation que les autres. Alors que la première réaction est orgueilleuse, car qui sommes-nous hein, pour juger une situation que nous n'avons pas vécue? Et bien la deuxième situation nous appelle à l'humilité. Nous sommes comme les Hébreux dans le désert. Souvenons-nous, il y a environ 4 ans avant ma venue parmi vous, vous aviez prié pour que le Seigneur vienne à votre aide pour faire grandir cette église. Et moi, de mon côté, je priais également, parce que j'avais envie d'être une église qui a envie de croître. J'avais envie de voir des miracles. J'avais envie de, voilà, d'être dans un réveil. Et je priais, nous prions tous dans notre coin. Dieu a répondu à notre prière. Quelques années après, et durant l'année scolaire précédente, celle-ci, j'ai entendu des murmures dans l'église à propos de certaines choses qui ont évolué dans l'église. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas les mêmes murmures que les Hébreux, ça n'a rien à voir. Ce sont donc bons murmures, et là, je suis honnête, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'envie de la plaie ni quoi que ce soit. Il y avait juste une envie de dire certaines choses. Depuis ma venue parmi vous, il faut le dire, soyons honnêtes, l'église locale a beaucoup changé, tant matériellement qu'humainement. Vous êtes d'accord avec moi? Avant ma venue, il n'y avait pas autant de micros, ni autant de webcams, ni autant d'écrans. Il n'y avait pas... Il me semble que vous chantiez uniquement dans les arcs-en-ciel, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, avec l'écran, la technique, on s'est mis à chanter dans plein d'autres recueils. Et puis des problèmes ont survenu, forcément. Les paroles n'étaient pas les mêmes dans l'arc-en-ciel, que se projeter, etc. Avant ma venue, le jour même quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'enfants et il n'y avait que les miens. Et puis, d'autres enfants sont venus. Les personnes présentes au culte, il y a 5 ans, ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Au niveau matériel, les bancs ont disparu, ils ont fait place à des chaises. La couleur très marron est devenue un vert très moderne. Je ne sais pas, moi je trouve moderne en tout cas. D'un coup, on s'est mis à faire des travaux de partout, à remettre du gazon devant, quoi. Tout a changé. En tout cas, j'ai été bousculé par tous ces changements. Je suis un luthérien du pays de Montbéliard. J'ai vécu dans une église bien paisible, avec les chants de nos cœurs te chantent, puis de l'arc-en-ciel. Et voilà, c'était une église paisible. Les autres églises que j'ai faites étaient des églises réformées bien pépères. Et me voilà arrivé à Thiers, où j'ai prié pour que le Seigneur agisse, et que Dieu a agi. Et que, waouh, on est bousculé. On est bousculé. Quand je vais aller faire de l'évangélisation, qu'on a été près du lycée, et que là, les choses prennent d'autres ampleurs, et puis d'un coup, là, je me mets à douter et je panique, alors que je devrais être dans la confiance. On voit Dieu agir tout le temps. Et je me mets à paniquer, je me mets à murmurer, comme les Hébreux dans le désert, dès que la difficulté arrive. Chers frères et sœurs, je pense que l'église de mon arrivée n'est plus celle d'aujourd'hui. Et forcément, soyons honnêtes, cela a dû créer des frustrations. En tout cas, moi, ça m'en a créé. Sur Internet, alors j'ai trouvé cela de... Alors je suis obligé de donner les sources, parce que sinon je pourrais dire n'importe quoi. De Rodolf Oppenheimer, psychothérapeute, psychanalyste, encore des mots savants. La peur du changement est évolutive chez l'homme. Depuis des temps immémoriaux, l'homme aime la routine. Nos prédispositions internes nous apprennent à résister au changement, principalement pour toujours se sentir au contrôle. Mais la peur du changement devient une phobie à part entière parce qu'elle est irrationnelle, persistante et très intense. La détresse émotionnelle personnelle causée par de nombreux changements de vie peut déclencher une telle peur du changement. comme un enfant qui a connu plusieurs déménagements en peu de temps, le décès d'un membre de sa famille ou d'un être cher. Un individu peut également avoir subi des changements comme une situation financière qui se modifie, un nouveau mode de vie. C'est plutôt pour nous, je pense, un nouveau mode de vie. La peur de ne pas pouvoir s'adapter, la peur de rencontrer de nouvelles personnes ou la peur des changements environnementaux peuvent également décourager l'adaptabilité. Et je ferme cette citation. Le murmure face au changement est pour moi compréhensible. Car cela montre que les gens expriment leur peur et leur crainte. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une partie du peuple qui murmure dans le désert, c'est tout le peuple. Et Dieu ne les a pas châtiés pour autant. Il les a écoutés, il leur a donné ce qu'ils avaient besoin. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir exprimer ses craintes et ses peurs dans une église. Alors on deviendra une église hypocrite. Si nous ne pouvons pas exprimer nos craintes, ça ne sert à rien de se rassembler, je dirais presque. Une église vivante est une église où on se dit les choses dans la paix et l'amour. Et c'est le cas dans notre église. Merci Seigneur. C'est vraiment chouette. Hein. Parce que quand les murmures ne se font pas dans la joie et la paix, c'est vraiment horrible. Et la lettre que j'avais reçue était pleine d'amour. Et c'est ça qui est super. Parce que dans l'amour, on progresse. Et la bienveillance. Face au changement que nous avons vécu, des peurs ont surgi. La peur que notre culte devienne un lieu où l'on ne puisse plus adorer Dieu dans la paix. La peur que l'Église ne devienne activiste, qu'on ne fasse que chercher tout le temps des projets, tout court après les projets. La peur que l'Église devienne un lieu où tout est permis, où les enfants peuvent venir sur l'estrade, se mettre à danser, à crier, où les adultes peuvent se mettre à manifester n'importe quoi. Et que notre culte soit complètement troublé, c'est une peur. La peur que le changement matériel nous fasse oublier les personnes qui avaient contribué à le faire. Le lustre qui a disparu et qui était le lustre qui a été fait par les parents de Yvan. Ah mince, on ne va pas l'enlever parce que mince, ça serait oublier ses parents, mais c'est faux. C'est faux, on ne les a pas oubliés, ils sont toujours là. Les banques ont disparu, ben mince, ceux qui les avaient payés, ceux qui les avaient fait. On me racontait le témoignage d'un temple qui ne voulait pas enlever les banques parce que c'était quelqu'un de l'église qui les avait fait. Alors si on les enlevait, ben, c'était un manque de respect par rapport à cette personne. Et la peur et la frustration étaient là. La peur que certains lieux de culte ne soient fermés. On peut avoir ces craintes. Peur que le temple des arrêts, on les ferme. Alors ça crée de la frustration, et la frustration crée le murmure, et on se met à dire des tas de choses. La peur de faire passer le monde avant Dieu en choisissant des cantiques trop modernes. Et je mets 3 petits points. Peut-être y a-t-il d'autres murmures qui ne sont pas arrivés à moi. Chers frères et sœurs, ne laissons pas nos peurs guider notre comportement, mais demandons sans cesse à Dieu de nous donner sa paix pour que nous puissions continuer à suivre sa volonté, même si cela doit opérer en nous des changements. Et comme je l'ai dit précédemment, personne n'aime le changement. Personne. Ne laissons pas la peur du changement nous éloigner de la volonté de Dieu. N'oublions jamais le plus important. Ce n'est pas d'avoir une église paisible, mais c'est quoi le plus important? Je vais vous le demander. Selon vous, quel est le plus important pour notre Église?
Confiance en Dieu.
Confiance en Dieu? Pardon?
Vivante.
Vivante, c'est-à-dire quoi vivante?
C'est-à-dire qui avance et qui croit au Seigneur.
Lucille. Redis, Lucille, pardon. Tu peux redire, Lucille?
Une église qui vit.
Une église qui vit. Oui. Une église qui vit, c'est une église qui est une lumière pour sa ville, pour les Sarrais, pour Thiers. La volonté aussi de Dieu pour notre Église, nos Églises de Thiers-les-Savets, c'est que n'importe qui puisse se sentir accueilli pour recevoir sa parole. C'est facile à dire, hein, mais moi je trouve que c'est pas facile à dire. Moi j'aime bien les choses paisibles. Souvent, je dis souvent, mais il y a un beau presbytère à Thiers, hein, puis un beau jardin. Et souvent je regarde mon jardin et puis je dis tiens, je peux avoir une vie bien paisible. Je fais le minimum vital et puis je profite du jardin. Puis je lève un peu plus les hauts, puis je vois la ville de Thiers, puis je me dis, mince. Le Seigneur ne m'appelle pas à ça, il ne m'appelle pas à une vie paisible. Il m'appelle à aller auprès des gens pour annoncer son évangile. Mais quand même un dernier détail sur le murmure. Le murmure, on peut le comprendre, mais pas quand elle est répétée et violente. En Nombre 14, le peuple veut lapider Moïse. Ça va trop loin, là. Et là, ça va changer. Le Seigneur va s'énerver. Pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert. Ils ont douté de la puissance de Dieu par rapport au pays de Canaan. Ils ont voulu faire violence sur le serviteur de Dieu. Il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout murmure. Continuons dans l'Église à avoir ces bons murmures doux, paisibles, compréhensibles, avec amour. C'est important. Chers frères et sœurs, ne baissons pas les bras et ne revenons pas en arrière. Oui, nous pouvons revenir en arrière. On peut se débarrasser de tout ça. On peut se débarrasser de Zoom. On peut se débarrasser de l'écran. On peut se débarrasser de tous ces projets d'évangélisation que j'ai faits. On peut arrêter de distribuer des gâteaux. On peut arrêter de faire les scouts du son, quelquefois. On peut arrêter tant de choses et à nouveau aller dans notre vie bien paisible d'autrefois et penser qu'autrefois c'était meilleur. Comme les Hébreux qui pensaient qu'en Égypte c'était bien mieux que ce qu'ils vivaient. Mais arrêtons les illusions. Nous sommes heureux de tout ce que nous vivons. Dieu nous a donné ce privilège d'être une lumière dans cette ville, et c'est vrai. Nous avons pu assister à des baptêmes. Qu'est-ce que c'est merveilleux! On assiste à des gens qui viennent de plus en plus dans notre lieu de culte. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Oui, nous continuerons à passer par des épreuves, si on peut appeler ça une épreuve. Et notre tranquillité sera éprouvée par des gens qui viendront avec des éducations et des coutumes différentes des nôtres. Et nous devrons les accepter tels qu'ils sont. Pourquoi on veut les accepter tels qu'ils sont? Parce que Christ lui-même nous a acceptés tels que nous sommes. Il aurait pu refuser de venir pour moi, il aurait pu refuser de venir pour Alain, pour revenir pour Priscille, pour venir pour Daniel. Mais non, il a accepté et il est venu. Et il est venu, il s'est adapté à nous. Il s'est fait homme, lui qui était Dieu, lui qui pouvait tout, il s'est fait homme pour chacun d'entre nous. Alors nous aussi, brisons notre tranquillité pour nous faire tous à tous. Non pas pour n'importe quoi, mais pour annoncer son évangile. Je demande pardon si j'ose le ton, enfin, mais souvent c'est pas bien d'oser le ton. Je vous prie de m'excuser, c'est que ça sort de là.
Il devrait murmurer.
Je devrais murmurer, oui. Que Dieu me pardonne, que Dieu me transforme. Nous devons aussi accepter que ce n'est pas nous qui sommes aux manettes de l'Église, mais que c'est Jésus. Où va-t-il nous amener cette année? J'ose pas l'imaginer. Où va-t-il nous amener? Quel changement va-t-il encore faire dans cette Église? Est-ce que c'est possible de faire encore des changements? Si ça se trouve, dans un an, on va se dire, bah oui, c'était possible. J'en sais rien, mais il y a une chose que je suis sûr, c'est que nous pouvons faire confiance en Dieu. Dieu nous a montré beaucoup de miracles durant ces 4 années. Je ne sais pas si vous les avez vus, si vous avez pris le temps de les voir, je pense que oui. Ils étaient tellement flagrants, tous ces miracles. Je crois que mon quotidien, c'est de voir les miracles de Dieu aussi. Faisons-lui confiance. Prions. Seigneur, j'ai le murmure facile, nous avons les murmures faciles. Mais aide-nous, Seigneur, à ne plus murmurer. C'est peut-être impossible, mais ça tombe bien, l'impossible, tu peux le faire. Retire de nous tout murmure et apprends-nous la vraie confiance. que lorsque nous évangélisons, que nous n'ayons pas peur. Parce que ta main puissante est là. Aide-nous, Seigneur, à aller vers les autres comme nous le faisons. Comme nous le faisons déjà. Aide-nous à ne pas avoir peur du changement, mais à te faire confiance. À faire confiance que le conseil que tu as établi, ben c'est toi qui l'as établi pour le bien de cette Église. Aide-nous, Seigneur, à faire confiance au conseil et à avancer toujours et encore près de toi.